Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Geoffrey Carvalino, conseiller régional d'Île-de-France, élu de la ville de Pantin et de la Seine-Saint-Denis. Bonsoir.
Bonsoir, merci de votre invitation.
Alors Geoffrey Carvalino, les Franciliens ont appris ces derniers jours que le pass Navigo, qui coûte actuellement 75 euros, risquait d'augmenter fortement. Valérie Pécresse a cité un montant qui inquiète les usagers en cette période de baisse de leur pouvoir d'achat, 90 euros. D'abord, qui est responsable de la hausse annoncée des tarifs? Est-ce qu'on peut imaginer tout de même que ce soit un petit peu moins cher?
Écoutez, tout dépend du gouvernement. Ils ont encore quelques heures, en fait, parce que le conseil d'administration de Île-de-France Mobilité, c'est le lundi 7 décembre, donc c'est directement ce lundi. Et effectivement, aujourd'hui, l'État ne répond pas présent, ne tend pas la main à Île-de-France Mobilité. Île-de-France Mobilité qui a beaucoup souffert. Et en fait, si on prend une augmentation de 15 euros du pass Navigo, ce sera de la faute de l'État, parce que Valérie Pécresse a proposé un plan efficace pour éviter cette augmentation qui est due en partie à cause de la crise de la crise du Covid, mais surtout du coût de l'énergie qui est en train d'exploser. Et elle demandait tout d'abord que le versement des entreprises soit augmenté pour pas que ce soit les usagers qui payent. Ensuite, elle demandait également l'annulation de la dette Covid, qui était quand même de 2 milliards, parce qu'il faut savoir que l'État avait fait du subventionnement et non de la dotation Île-de-France Mobilité, comme ça avait été le cas dans le monde entier pour les organismes organisateurs des transports publics. Et puis bien sûr, la TVA à 5,5%. Donc en fait, tout était sur la table avec des propositions concrètes pour que le gouvernement agisse, pour éviter cette augmentation de 15 euros. Et le gouvernement d'Elisabeth Borne, et bien sûr sous la tutelle du président de la République Emmanuel Macron, n'a pas répondu à ces sollicitations pour le moment. Il reste quelques heures avant qu'on ait ce conseil d'administration de France Mobilité, et je pense que ça peut être évité, mais pour cela, il faut mettre en place le plan proposé par Valérie Pécresse, tout en sachant que Île-de-France Mobilité fait des économies, parce qu'on a trouvé des centaines de millions d'économies, et puis aussi les collectivités, les départements, même la mairie de Paris font des efforts pour relever en fait leur dotation pour Île-de-France Mobilité. Je ne comprends pas que l'État ne soit pas au rendez-vous.
Vous avez le sentiment que ce bras de fer est aussi politique?
On ne devrait pas avoir de politique. Vous savez, Jean-Paul Huchon, qui était pendant 18 ans président socialiste de la région Île-de-France, qui a été l'adversaire politique de Valérie Pécresse, eh bien, dans une interview aux Parisiens, a dit qu'il fallait se retrousser les manches et être derrière Valérie Pécresse pour éviter cette augmentation du pass Navigo. Il n'y a plus à avoir de combine politique ou d'avoir un clivage politique. Là, il s'agit de sauver les transports publics franciliens et que les gens, justement, prennent les transports. Et puis, c'est un moyen, ce moyen de transport, c'est aussi réduire les gaz à effet de serre et, en fait, aller vers plus de mobilité douce avec le vélo, bien sûr, mais prendre les transports en commun, ça évite de prendre la voiture, ça évite qu'il y ait des embouteillages et ça évite qu'il y ait des gaz à effet de serre qui soient émis. Et donc, c'est aussi écologique de miser sur les transports publics.
Lundi, Île-de-France Mobilité va aussi regarder la fréquence des trains, la fréquence des métros, puisque c'est un problème aussi pointé par les usagers.
Oui, effectivement, nous, vous savez, on est pour un retour à 100% en fait du trafic d'avant Covid. Il était actuellement de 97,5, donc il était quasiment 100%. Et effectivement, on peut comprendre aujourd'hui les usagers des transports qui peuvent souffrir parce que la fréquence est problématique. Mais vous savez, Île-de-France Mobilité en fait passe commande donc à ses prestataires pour assurer le fonctionnement des bus, le fonctionnement des métros ou des trains. Et donc, nous avons la SNCF et la RATP qui sont les prestataires d'Île-de-France Mobilité. Et force est de constater, c'est qu'en fait, ces deux sociétés publiques ont eu du mal à pérenniser des chauffeurs de bus, à recruter des conducteurs de métro, des conducteurs de train. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a quelques difficultés en fait de recrutement. Et moi, j'aimerais aussi passer un message sur votre antenne. C'est autour de vous, aux éditeurs, j'ai envie de leur dire, voilà, si autour de vous, vous connaissez des personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui veulent même changer, qui sont intéressées pour devenir chauffeurs de bus, qui sont intéressées pour devenir conducteurs de métro ou de train, eh bien qu'ils aillent sur les sites de la RATP et de la SNCF, parce qu'on a besoin, effectivement, d'aujourd'hui, de personnes qui conduisent les bus, de personnes qui conduisent nos métros et nos trains. Et donc, il faut le dire haut et fort et il faut se retrousser les manches pour qu'il y ait du recrutement. Et en fait, c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a un manque de régularité, alors que Île-de-France Mobilité et Valérie Pécresse ont été en rendez-vous en demandant très clairement et en assurant que les transports publics soient vraiment un retour à 100% de l'offre d'avant Covid.
L'inquiétude autour du prix du pass Navigo intervient, Geoffrey Carvalinho, au moment où Emmanuel Macron veut créer 10 nouvelles lignes de RER en France. On a vu de nombreuses collectivités se porter candidates. L'annonce du président Macron est-elle le signe qu'il prend au sérieux les transports du quotidien ?
Moi, je pense surtout que c'est un contre-feu, parce qu'il ne veut pas assumer l'augmentation du pass Navigo de 15 euros, si elle doit avoir lieu, d'ici la semaine prochaine. Donc, ils préfèrent allumer un contre-feu. Mais vous savez, déjà, les transports publics, déjà, il y a l'Île-de-France, il y a des RER qui fonctionnent. Et ça fait plus de 30 ans que l'État, en fait, n'a pas mis en fait les moyens sur le réseau existant. On a beaucoup misé sur le TGV, tant mieux, parce que c'est une fierté française, mais on a oublié les transports du quotidien en Île-de-France. Donc oui, c'est bien d'avoir des transports publics aussi en province, parce que je pense que beaucoup de Françaises et de Français qui sont dans les zones carencées ont besoin de transports publics, justement, pour moins prendre la voiture et puis qu'il y ait une certaine, on va dire, développement économique autour de villes qui sont peut-être aujourd'hui un peu moins desservies partout. Mais faire ça au moment où il y a une augmentation du pass Navigo de 15 euros, c'est détourner l'attention, tout en sachant que effectivement il y avait des demandes de différents présidents de région, mais rien de concret. Et puis même, on annonce aussi cet investissement, très bien, mais par exemple, je vous prends le cas, en Ile-de-France, nous n'avons toujours pas signé de contrat plan État-Région, ce qu'on appelle les fameux CPER, pour la période 2021-2027, sur les transports publics en Ile-de-France. Et donc, pour moi, c'est tout simplement faire un petit buzz sur Internet pour détourner l'attention de l'augmentation du pass Navigo qui sera de la responsabilité du gouvernement et d'Emmanuel Macron.
Geoffrey Carvalinho, le gouvernement a récemment annoncé que sur le prix de l'énergie, il y aura un bouclier tarifaire pour le chauffage dans les HLM et les copropriétés. Vous qui êtes élu de Pantin et de Seine-Saint-Denis, cette annonce est-elle un soulagement pour vous ? Est-ce que vous avez connaissance de situations compliquées pour des habitants de votre circonscription ?
Depuis un certain temps, c'est très compliqué pour les locataires des HLM. Déjà, ils avaient été un peu méprisés quand, à un moment donné, on a dit, on va baisser les appels de 5 euros pour les gens qui résidaient dans les logements HLM ont été particulièrement touchés. Pareil pour les organismes, en fait, de l'HLM qui sont plus du tout aidés aujourd'hui, où effectivement ils ont besoin en fait d'argent public pour faire de la rénovation thermique, pour réaménager les appartements, pour qu'il y ait plus d'espace vert, pour qu'il y ait plus d'espace de respiration. Et donc ça fait un certain temps en fait que les offices publics d'HLM et que les copropriétés sont laissés un peu à l'abandon. Et donc effectivement, heureusement aujourd'hui que le bouclier tarifaire qui arrive, parce que je peux vous dire que on peut faire face à une véritable bombe sociale et les factures ont déjà commencé à augmenter, même les années précédentes, mais cette fois-ci, moi j'entends déjà des cas de personnes dans les copropriétés ou dans les logements HLM où les factures énergétiques sont en train de flamber et que les gens ne savent pas comment ils vont les régler quand ils reçoivent leurs différentes charges à régler. Et puis même à un moment donné, on avait cette espèce de spectacle où c'était fallait mettre une doudoune, fallait mettre un col roulé de la part du gouvernement, mais ils sont pas dans la réalité. Ils doivent savoir que en Seine-Saint-Denis, beaucoup de gens qui vivent dans les HLM, eh bien, ils n'allument pas le chauffage. Et ça, c'est une réalité. Et donc, venir faire ce spectacle pour dire aux gens qu'il faut se chauffer à 19 degrés, ça fait très longtemps que les gens qui vivent dans les HLM ont des problèmes de paiement des factures d'énergie et se privent en fait d'allumer le chauffage en hiver. Et j'ai l'impression que ce gouvernement, il en a, voilà, on n'a pas du tout conscience. Ils sont dans les artifices de communication et il faut que ces artifices s'arrêtent parce que les gens ont besoin de concret, de réel, et il faut préserver leur pouvoir d'achat.
Geoffrey Carvalino, l'inflation dans les supermarchés renforce la précarité alimentaire de nombreuses personnes, étudiants, familles monoparentales, travailleurs pauvres. On avait connu déjà cette situation durant la crise sanitaire. Quelles actions mène par exemple la région en faveur des étudiants qui subissent la crise ?
Ben nous, vous savez, depuis la Covid, on aide beaucoup des associations d'étudiants et même on est en contact avec les différentes universités. On a fait des distributions alimentaires qui ont été faites pendant la Covid, qui se sont poursuivies également. Et on mise beaucoup aussi sur l'accès au logement étudiant, en fait, parce que c'est vrai qu'en Ile-de-France, la pénurie de logement, le mal logement, les loyers très chers, c'est une réalité. Donc nous, on a misé beaucoup dessus. Ensuite, il y a différents dispositifs d'aide pour la réussite des jeunes pour dans leurs études. Il y a aussi quelque chose qu'on a remis, que le gouvernement avait enlevé, c'est quand même les bourses au mérite, hein, pour les élèves qui ont des mentions très bien. Et donc, c'est différents dispositifs qui sont à la disposition des étudiants sur le site ile-de-france.fr. Le logement étudiant, où on continue en fait de construire chaque année énormément de places. Donc effectivement, c'est un vrai sujet, cette précarité étudiante. Et c'est pas normal que des jeunes aient du mal à se loger, du mal à se nourrir. Et effectivement, c'est cette crise après la Covid qui vient s'aggraver, ça touche les étudiants. Et pour ça, il faut que le gouvernement réagisse très rapidement. Ensuite, sur l'inflation qu'il y a dans les grandes surfaces, on l'a vu et ça a été annoncé en 2023, les prix vont exploser. Pendant l'élection présidentielle, la seule candidate à l'élection présidentielle qui avait proposé une augmentation des salaires hors inflation de 10% sur 5 ans, c'est Valérie Pécresse. Et c'est la seule qui l'a proposé parce qu'elle avait déjà vu et connaissait les problématiques des salaires et justement de cette inflation qui était en train d'arriver et puis qui a été accentuée avec la guerre en Ukraine, et qu'effectivement il faut une augmentation de salaire, et pour cela il faut un effort du côté de l'État et aussi faire une grande conférence de salaire avec les partenaires sociaux. Mais ça, c'est à la main du gouvernement aujourd'hui.
Geoffrey Carvalino, on pensait avoir connu le pire avec la crise sanitaire, mais la crise de l'énergie crée un sentiment d'inquiétude chez les Français. Dans les villes, par exemple, l'éclairage public est parfois trop faible, ce qui peut créer un sentiment d'insécurité. Le gouvernement prépare l'opinion publique à des coupures d'électricité, peut-être au mois de janvier. Est-ce que vous partagez le sentiment de déclassement éprouvé par certains Français qui se disent qu'on vit finalement moins bien aujourd'hui qu'il y a quelques années ?
Oui, c'est un scandale. Comment on peut se dire aujourd'hui que la 6e ou 7e puissance du monde se retrouve avec des coupures d'électricité qui peuvent arriver ? On va leur demander de changer leur comportement, etc. Mais c'est même pas lié en fait au réchauffement climatique. C'est parce qu'en fait, on ne produit pas assez d'énergie. Et ça, c'est vraiment scandaleux. Mais pourquoi aussi ? Pourquoi ? Il faut aller au fond des problèmes. C'est parce que sous François Hollande, et ça a été continué par Emmanuel Macron, il y a eu des décisions qui ont été prises de fermer Fessenheim, d'arrêter les programmes nucléaires. Et donc, en fait, avant, vous vous rendez compte, il y a quelques années, on avait une surproduction d'énergie et d'électricité et on revendait à nos voisins européens qui demandaient, en fait, de l'énergie. Je pense à l'Allemagne. Et aujourd'hui, c'est nous, en fait, qui avons du mal, en fait, à trouver de l'énergie. La guerre en Ukraine l'a parfaitement montré. Et c'est scandaleux. Alors que le nucléaire français était même pris en exemple en 2008 par Barack Obama en personne, qui disait que le parc nucléaire français était vraiment exemplaire parce qu'ils arrivaient à s'auto-alimenter. Et c'est ça. Et il faut savoir aussi que tout ça, c'est de la faute d'Europe Écologie Les Verts. Tout ça pour un accord de circonscription avec François Hollande en 2012. Et depuis, en fait, on le voit, c'est le déclin français à cause des décisions d'Europe Écologie des Verts accompagnées de toute la gauche et des socialistes. Et même, j'ai envie de dire aujourd'hui, parfois, une certaine partie de la gauche est un peu tartuffe parce que ils vont faire des manifestations avec des locataires HLM parce que les prix sont en train de flamber au niveau de l'énergie. Mais eux-mêmes, il y a 10 ans, ils soutenaient des décisions du gouvernement de M. Hollande avec les Verts qui ont arrêté en fait les programmes nucléaires et qui ont conduit à cette situation. Donc, la réalité, la gauche est responsable de cette situation, mais maintenant, il n'y a qu'une seule solution, c'est de faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Et pour faire ça, il faut vraiment ouvrir plusieurs réacteurs nucléaires supplémentaires. Beaucoup sont fermés parce qu'ils sont en train d'être regardés, donc il faut les réhabiliter, il faut les remettre sur le circuit. Et c'est vrai que c'est scandaleux d'en arriver là. C'est un bond de 40 à 50 ans en arrière. Je crois que la dernière fois où c'est arrivé dans notre pays, c'est à la fin des années 70. C'est-à-dire que notre génération n'a jamais connu ça, mais c'est-à-dire que ça va rappeler à nos parents leurs jeunes années. Et jamais des gens aujourd'hui qui sont retraités n'auraient imaginé que leurs enfants connaissent une situation pareille, en sachant qu'aujourd'hui, la France a toutes les capacités de produire de l'énergie renouvelable, verte, nucléaire, décarbonée, pour subvenir à nos moyens. Donc c'est vrai que ça fait mal de voir notre pays autant déclassé.
Alors, votre ville, Pantin, a beaucoup souffert de la présence de toxicomanes ces derniers mois. Geoffrey Carvalino, on assiste au retour des usagers du crack à Paris. Est-ce que cela touche aussi votre ville de Pantin ?
Pour le moment, il y a des forces de police, ça dépend des heures et des jours, qui restent en fait au niveau de la porte de la Villette, au niveau du passage Forceval. Donc du côté de Pantin, ça va, mais parfois on a eu quelques toxicomanes qui étaient encore dans les rues de Pantin, parce qu'effectivement, ces personnes qui ont besoin d'être soignées, qui sont malades, eh bien, elles continuent à être présentes sur le territoire. Donc ça c'est une réalité. Je l'ai moi-même vu à plusieurs reprises, mais ça a été maîtrisé du côté de la Porte de la Villette au moment où Gérald Darmanin a décidé de fermer ce camp, qui était un énorme scandale. Mais effectivement, à un moment donné, il y a eu des prises en charge de personnes. On nous annonce aujourd'hui que quelques personnes ont été expulsées, notamment quelques trafiquants, et tant mieux, pour une fois, tant mieux. Il faut féliciter Gérald Darmanin pour cela, mais on arrivera à régler le crack que si, eh bien, on fait des prises en charge de soins des personnes qui sont malades et qui ont besoin d'être soignées. Et donc, le seul moyen, c'est de miser sur la santé, sur le sanitaire, et pas tout sur la sécurité. Il faut qu'il y ait de la sécurité parce qu'il faut protéger les populations. Il n'est pas normal que aux portes de la Seine-Saint-Denis, qui regroupe déjà d'énormes problèmes, notamment dans cette zone du quartier des Quatre Chemins, on ait subi cela pendant près d'un an. Maintenant, il semble qu'un nouveau camp tente de se reformer du côté du 18e arrondissement à Paris. C'est pas normal. Donc, quand on fait ces opérations en fait de déplacement de personnes, eh bien, il faut qu'il y ait véritablement de prise en charge sanitaire de ces personnes qui ont besoin d'être soignées, et surtout vraiment de lutter contre le trafic en fait de crack en coopérant avec les plusieurs pays pour que en fait on lutte contre l'immigration illégale qui ramène ce genre de trafic, et tout ça doit être réglé par en fait une grande concertation avec tous les acteurs publics et l'État autour d'une table, et pour qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, en sachant que il y a beaucoup de bonne volonté, mais il faut qu'elle soit rassemblée pour que ce soit un jour vraiment efficace.
Merci Geoffrey Carvalino. Je rappelle que vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, élu de la ville de Pantin et de la Seine-Saint-Denis. Bonsoir.
Merci.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.